Et l'on parle bien entendu du scrutin européen en France, ça on en parlera dans quelques instants, mais tout d'abord, scrutin européen en Europe avec une géographe, Béatrice Gibelin. Bonjour Béatrice Gibelin, et tout d'abord je vous ai vu pendant la revue de presse internationale de Camille Manière lorsque celui-ci évoquait les effets secondaires des élections européennes, notamment avec l'Écosse et avec le réveil des tentations indépendantistes. Vous avez fait un sourire parce que évidemment ça vous parle à vous qui êtes géographe.
Oui, parce que ça fait un moment quand même qu'on voit les Écossais s'inquiéter de la tournure des orientations politiques prises par le gouvernement britannique. Et il y a quand même déjà eu un premier référendum sous Tony Blair qui leur avait accordé une beaucoup plus grande autonomie. Il y a eu un référendum aussi avec Cameron, où de justesse quand même, il n'y a pas eu... C'est resté dans le Royaume-Uni. Il est évident qu'avec une perspective de Brexit, dur ou pas dur, mais de Brexit, pour les Écossais, pas encore une majorité. Mais une fois que le Brexit sera fait, est-ce qu'il n'y aurait pas une majorité d'Écossais pour dire « on s'en va, nous on reste dans l'Europe ». Ils ont toujours été quand même très europhiles. Et ils se rendent très bien compte qu'ils n'auraient rien à gagner à être dans un Royaume-Uni sans l'Europe. Non, c'est une question qui est tout à fait importante. Ce très vieil État qu'est le Royaume-Uni peut nous réserver des surprises.
Et cette nouvelle élection avec ces nouveaux rapports de force au Parlement européen, que nous réserve-t-il, Béatrice Gibelin, s'il fallait les présenter en quelques mots, que diriez-vous ?
Moi, je dirais que c'est une bonne chose. Moi, j'ai une lecture optimiste de ce qui se passe
déjà,
aujourd'hui.
Déjà, c'est bien, puisque ça n'est pas si fréquent.
Non, c'est justement pour ça que je vais m'expliquer. On avait quoi ? On avait depuis 40 ans deux partis, les deux grandes forces, le PPE d'une part et les sociaux-démocrates d'autre part, disons les conservateurs et les sociaux-démocrates. Et au fond, les petits arrangements entre amis, il n'y avait rien de tel que pour faire avancer les projets et les options qu'on avait décidées. On ne peut pas dire que ce soit très mobilisateur pour les partis minoritaires, puisque de toute façon, ils ne pouvaient pas bouger sur grand-chose, ils ne pouvaient pas influer sur grand-chose, ce qui explique peut-être le désintérêt des élus, d'ailleurs députés européens, à siéger à Strasbourg, puisque ça ne servait pas à grand-chose. C'est comme quand on est avec une domination très forte d'un parti, nous, à notre Assemblée nationale, sous la Ve République, les oppositions, elles ont quand même un peu de mal à se faire entendre. Là, on va être dans un jeu beaucoup plus ouvert, puisqu'on a quand même un recul des conservateurs. Et je pense qu'une donnée qui est importante, c'est que l'Allemagne n'est plus dans cette position aussi dominante qu'elle l'a été.
Pourquoi ?
Parce que d'abord, on a une situation pour Angela Merkel en interne, qui est quand même fragilisée. Sa grosse coalition, qu'elle a eu énormément de mal à établir, pose un certain nombre de problèmes de gestion, incontestablement, parce qu'on a eu une poussée de l'AFD à la suite de son ouverture à l'accueil des immigrés de 2015, qu'elle a plutôt réussi d'ailleurs. Moi, je suis assez admirative de ce qu'ont su faire les Allemands à ce sujet. Néanmoins, c'est ça qui a ouvert la boîte de Pandore pour faire surgir, d'une certaine façon, l'AFD.
Bon, même si la CDU, le parti d'Angela Merkel, a obtenu un score supérieur à celui d'Emmanuel Macron.
Oui.
En France, elle a un score
28.
Un peu plus de 28%. Donc, c'est un score qui aurait été évidemment préféré par le président de la République française. Ce qui veut dire que même si son score est de 28%, elle est aujourd'hui dans une position fragile, selon vous.
Moi, je le pense. Elle est dans une position fragile parce qu'elle est aussi dans une position plus fragile en Allemagne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner, si vous voulez, comme si ça allait être qu'un raisonnement européen. Il est bien évident que chaque représentant de gouvernement va au Parlement européen en fonction de sa situation de géopolitique interne, je dirais. Et je pense que la situation de l'Allemagne aujourd'hui n'est pas aussi florissante qu'elle l'était. On venait de parler de l'automobile. Vous savez ce qui s'est passé sur l'automobile allemande avec les grosses affaires de Dieselgate sur Volkswagen et autres ? Par ailleurs, c'est quand même une industrie automobile qui ne semble pas avoir pris le virage de la voiture électrique.
Aussi, BMW...
Mais beaucoup plus tard que d'autres, ils rattrapent en ce moment un temps important. Je pense que mais c'est une hypothèse. On prépare un numéro sur l'Allemagne à Hérodote. Je pense quand même que...
La revue de géographie que vous dirigez.
Que je dirige. Je pense que, les rigeurs vraiment flamboyantes d'une industrie allemande sont peut-être à regarder avec plus de circonspection. Donc je pense qu'elle n'est pas dans la même situation de rapport de force qu'elle l'était en 2014, incontestablement. Les sociaux-démocrates sont à la baisse aussi. Et puis on a cette poussée des centristes et au fond des populistes. Bien. Alors, quatre forces va nécessiter des négociations.
Et si on fait donc ce tableau européen au global, on voit qu'il y a eu une forte présence des écologistes, puisque ceux-ci obtiennent 78 sièges sur les 751 que compose aujourd'hui le Parlement européen. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que cela veut dire qu'on va plus parler d'écologie dans ce prochain Parlement européen, Béatrice?
Ah oui, je pense. On va beaucoup plus parler d'écologie, pas seulement parce qu'on a un groupe de 78, ce qui fait un peu plus de 10% du Parlement, mais parce que quand même d'autres grosses forces électorales ont pris en charge l'écologie. Je pense les centristes. Les centristes vont parler écologie. Et la question écologique en Allemagne, on le voit bien, c'est eux qui arrivent avec le plus gros contingent, 20% des voix pour les Verts allemands, qui ont en plus une attitude beaucoup plus pragmatique que les Verts français. Ils sont dans des coalitions de gestion de différents Länder, à droite ou à gauche, hein, ils n'ont pas une position aussi marquée à gauche que les Verts français. Donc oui, je pense que les questions environnementales vont peser.
Emmanuel Macron a parlé d'un duel entre progressistes et populistes. Il est où dans le Parlement européen? On ne le voit pas. On voit une droite conservatrice qui aurait 174 sièges et les sociaux-démocrates qui auraient 150 sièges. C'est-à-dire qu'à eux deux, ils ont moins de la moitié du Parlement européen. On ne voit pas de tel duel. D'autant que la droite conservatrice, ce ne sont pas évidemment les populistes.
Non, ce ne sont pas les populistes. Ça peut le devenir dans cette,
cette situation. Populistes, a priori, ils désigneraient la droite nationale. Nationaliste et souverainiste et l'extrême droite. L'extrême droite, elle a 117 sièges.
Et puis on en a 56 si on ajoute le PIS et si on pousse un peu Orban vers la sortie du PPE. Ça commence à faire un groupe qui peut être conséquent quand même. Et qui peut
si
être...
ils font une coalition.
S'ils font une coalition. Mais c'est, puisqu'on en est dans des scénarios, c'est quelque chose qui peut aussi s'imaginer. Si l'extrême droite et cette droite souverainiste voulaient peser, ce serait dans une coalition. Très sincèrement, je n'y crois guère.
Pourquoi ?
Parce que ce sont des personnalités très fortes. Déjà que quand Matteo Salvini va vouloir être le chef, il va en rencontrer d'autres, parce que c'est lui qui a le plus grand nombre de députés. Je crois qu'ils sont 28. Marine Le Pen, ils sont 23. Il ne va pas laisser la place. Bon, donc, deux crocodiles dans le même marigot, ça a toujours fait un certain nombre de tensions. Donc, je crois qu'on va déjà avoir quelques difficultés de ce côté-là.
Surtout qu'ils ne sont pas d'accord.
Mais non.
Il n'y a pas uniquement des questions d'ego, il y a aussi des questions de désaccord politique.
L'immigration. Par exemple. Hein,
c'est pourquoi aussi. Expliquez-nous.
Eh bien, parce que si vous voulez, Salvini, lui, il est sur une politique, il faut répartir les immigrés sur l'ensemble des pays européens, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on nous ait laissés tout seuls. Même si la crise migratoire, il faut le dire et le redire, est derrière. Hein, il n'y a plus ces arrivées comme il y a eu en 2015. Mais il continue complètement à surfer là-dessus, avec des résultats. Donc il ne va pas lâcher ce discours-là. Quant à beaucoup de gens d'extrême droite, y compris Marine Le Pen, ils ne sont pas du tout favorables à ce qu'on répartisse les immigrés dans l'ensemble des 27.
Bon, alors donc finalement, l'alliance des populistes, elle ne va pas être facile à réaliser si on vous suit.
Elle va pas être, mais bien sûr qu'elle ne peut pas être facile à réaliser. On a des partis qui sont des partis nationalistes et souverainistes. Comment voulez-vous qu'ils s'entendent au sein d'un vaste ensemble qui est l'Europe pour une politique commune? Il y a quelque chose de contradictoire entre leurs positions et évidemment défendre un projet commun au niveau de l'Europe.
Même chose pour ce qu'Emmanuel Macron appelle les progressistes. Ils sont où? On a 153 sociaux-démocrates, on a 106 centristes, des écologistes régionalistes qui ne se reconnaissent pas du tout dans une forme de social-démocratie, puisque eux, ce qui les intéresse, c'est l'écologie. Est-ce qu'une coalition est possible entre ces différents groupes, Béatrice Gibelin?
Au coup par coup, je dirais. On n'aura pas, si vous voulez, des blocs qui vont être bien formés, bien installés et qui vont fonctionner tout le temps des 5 ans du Parlement à venir. Je pense que, vous savez, la culture au Parlement européen aussi, et un peu globalement en Europe, c'est une culture de la négociation. Hein, et du consensus sur un nombre de projets. On peut penser qu'on va pouvoir avoir, en fonction de ce qui sera proposé, des alliances qui se composeront et se décomposeront. Donc on n'aura pas un bloc progressiste tout du long, certainement pas. On aura des tensions, mais c'est ce qui va rendre au fond...
Mais ces tensions, en fait, c'est le jeu normal de la politique et pas un affrontement entre deux blocs.
Mais je dirais, enfin, on va avoir un débat. Et je crois que du coup, les médias et d'une certaine façon les citoyens vont peut-être s'intéresser sur ce qui se passe au Parlement européen, voire même à la Commission. Pour la première fois, je crois qu'on va avoir des débats beaucoup plus démocratiques et rendre de ce fait l'étude, l'analyse un peu plus riche, parce qu'un peu plus complexe que ce qu'on faisait jusqu'ici. Et c'est pour moi quelque chose de très positif.
Et alors, les jeunes, pour qui ont-ils voté Béatrice Gibelin? Est-ce qu'ils dessinent une autre Europe, une Europe qui, politiquement, pourrait différer de celle qu'on avait jusqu'à présent sous les yeux?
Ce qui est incontestable, c'est qu'ils ont voté vert. C'est très net en Allemagne, c'est très net en France, hein, et le regain, si vous voulez, de participation qui a surpris... Bon, et qui n'est pas non plus colossal, mais enfin quand même, 8 points, c'est à prendre tout à fait au sérieux. Ce sont des jeunes entre 18 et 25 ans, voire jusqu'à 35 ans, qui ont fait le choix de voter pour les partis verts. Alors avec des différences, hein, puisque par exemple en Suède, les verts ne font pas de score, on peut s'en étonner, alors qu'ils ont la jeune leader de 16 ans qui entraîne tous les jeunes tous les vendredis. On aurait pu s'attendre à ce qu'en Suède, les verts fassent beaucoup de choses. Or non, mais c'est tellement intégré au fond l'écologie en Suède que les autres partis tiennent un discours très sur l'environnement. Donc ceci explique peut-être cela. En revanche, moi je pense que là il y a une prise de conscience, en tout cas sur les jeunes de l'Ouest, parce qu'on n'a pas du tout la même chose.
Et oui, c'est ça. En fait, le clivage, il est particulièrement prononcé en Estonie, dans les pays de l'Est. Il n'y a pas d'écologistes, ou très peu. C'est quelque chose d'extrêmement variable entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, Béatrice Gibelin.
Très net. C'est tout à fait important. Pourquoi aussi? Parce que le débat écologiste, il est déjà ancien chez nous. Hein, des verts, on en a dans les élections depuis les années 70. Bon, on a eu des poussées vertes. Quand Daniel Cohn-Bendit a été candidat tête de liste vert il y a 10 ans, je crois, à partir là, on avait eu des verts à 16%, qui était le rêve qu'on espérait toujours réatteindre. Bon, là, Jadot, avec une bonne campagne, une campagne centrée sur l'écologie, dans un contexte favorable. Je crois que la prise de conscience, vraiment, du réchauffement climatique et de ses conséquences, les problèmes de pollution, les conséquences respiratoires, par exemple, dans les grandes villes, tout ceci fait son chemin. Et je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience, c'est vrai à l'Ouest, parce que les niveaux de développement les permettent aussi de s'intéresser plus aux questions environnementales. À l'Est, il y a encore tout un rattrapage économique qui est encore à faire. On le sait bien, on est sur des différences encore très très importantes.
Et alors, dans cette perspective, là aussi, de recomposition politique, la question sociale, elle se trouve où? Parce que on accuse, peut-être à juste titre, vous allez nous donner votre point de vue, Béatrice Gibelin, la Commission européenne, d'être beaucoup trop libérale. Est-ce qu'on voit une importance plus forte à l'avenir de groupes qui pourraient avoir une conception plus sociale de l'Europe?
Je pense que c'est là aussi possible pour deux raisons. D'abord, si les Anglais quittent véritablement l'Union européenne. Je crois que l'orientation très libérale de l'Union européenne a été fortement poussée par les Britanniques, qui avaient pour alliés, par exemple, les Pays-Bas, qui perdent avec le départ des Britanniques un allié très puissant. Je pense que dans le cadre de l'Allemagne, on peut aussi avoir une prise de conscience que, au fond, une association au sein de l'Europe pour faire de grands groupes. Vous savez, l'histoire d'Alstom-Siemens qui ne s'est pas faite pour des histoires de concurrence, ça a laissé des traces dans les mémoires. Je pense que la prise de conscience, on a mis longtemps, mais qu'avec la mondialisation, ou la globalisation, la montée en puissance de très gros groupes chinois, oblige à s'organiser pour pouvoir y faire face.
Est-ce que ça veut dire qu'on va changer notre doctrine sur la concurrence ?
On va pas la changer, mais on risque quand même de l'adapter. Mais on la changera pas, elle fait partie profondément de l'ADN.
Mais
elle ne sera pas aussi affirmée, si vous voulez, et je pense qu'il y a des prises de conscience qui se font. Un SMIC européen, par exemple, c'est quelque chose qui commence à se diffuser. Alors, il n'aura pas la même valeur partout, mais c'est quand même une idée maintenant qui circule, alors qu'elle était inenvisageable encore il y a pas
si
longtemps.
Et l'harmonisation fiscale européenne, Béatrice Gilles.
Ça, c'est ce qui sera le plus difficile, parce que l'harmonisation fiscale européenne, si les Britanniques sortent, elle sera un peu plus facile, parce que la City deviendra le grand paradis fiscal, ce qui nous posera d'autres problèmes sûrement, mais le poids à ce moment-là du Luxembourg et de plus petites zones, ça sera difficile à garder.
Béatrice Gibelin, vous dirigez la revue Hérodote, une revue de géographie. Vous avez notamment publié Le paradoxe français entre fierté nationale et hantise du déclin chez Armand Collin. Le décryptage continue dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejointe par le démographe Hervé Lebras et là, on essaiera de dessiner cette nouvelle carte de France qui est construite donc par le scrutin de dimanche dernier. Il est 7h59, 8h sur France Culture. Bon réveil à tous. 8h21 sur France Culture. Nous sommes en compagnie de Béatrice Gibelin, géographe, directrice de la revue Hérodote, auteur du paradoxe français entre fierté nationale et hantise du déclin. Et nous accueillons le démographe Hervé Lebras. Bonjour, vous êtes spécialiste d'histoire sociale et démographique. Et vous avez notamment publié Se sentir mal dans une France qui va bien aux éditions de l'Aube. J'ai une carte de France sous les yeux. Celle-ci comporte deux couleurs. C'est celle que le Monde a publiée, radiographie d'une France coupé en deux. Qu'est-ce qui dessine ces deux France, Hervé Lebras ?
Ce qui dessine ces deux France, bien sûr, c'est la présence très forte du Front National dans ses zones historiques, c'est-à-dire dans une grande bande nord-est de la France, disons au nord d'une ligne Le Havre-Belfort, avec un petit renflement vers le centre, la bordure méditerranéenne, et puis un peu aussi la vallée de la Garonne. Ça, le Front National est dans sa tradition, d'ailleurs. Au fond, depuis 1984, sa géographie a bougé localement, mais régionalement peu variée.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que ce sont des régions qui ont à la fois un état social qui est moins bon quand on regarde, quand on compare cette carte du Front National à la carte du chômage, ou bien à la carte des personnes, des jeunes sans diplôme, par exemple, ou bien à celle des familles monoparentales, et on pourrait continuer, à celle de la pauvreté. Ce ne sont pas les mêmes, mais il y a quand même, je dirais, une assez grande ressemblance, avec un bémol, c'est qu'il y a toujours une très grosse différence à l'intérieur des zones Front National comme à l'intérieur des zones moins Front National entre les grandes agglomérations, surtout entre les grandes villes et puis le territoire, d'autant plus qu'il est rural. Ceci dit, je voudrais dire à propos de l'autre, on pourrait penser que ce qui était le cas en 2017, que le vote pour la République en marche est l'opposé exact. Or, il y a eu un mouvement tout à fait intéressant entre le premier tour de la présidentielle et maintenant. La carte maintenant des résultats les meilleurs de Macron se rapproche de ce qu'on appelle la carte de la à fond du catholicisme, mais qui était aussi la carte traditionnelle des oui aux élections, au référendum européen de Maastricht et de 2005.
Alors, quelle est la carte des catholicismes en France?
La carte du catholicisme, c'est un grand ouest, c'est l'extrême sud-ouest, c'est une grande partie de l'est du Massif central, et puis l'Alsace, la Lorraine et la Savoie.
Béatrice Gibelin.
Oui, moi je pense que ce qui est intéressant là, c'est que même si le Rassemblement national reste très fort dans ces zones d'implantation, on a une diffusion quand même sur l'ensemble du territoire national. Dans la carte publiée par Le Monde, qui est les communes où le Rassemblement national est arrivé en tête, se détache vraiment nettement la Bretagne comme ne l'étant pas, et peut-être terre catholique, mais aussi Effet Le Drian. Je pense que Le Drian, qui a été le président de cette région, a retenté de gagner cette région aux dernières élections régionales, et ça a marché. C'est une personnalité qui pèse très 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 lourd dans cette région de Bretagne. qui a été moins confronté que d'autres régions, parce que Hervé Lebras l'a pas évoqué, mais la question de l'immigration, qu'elle soit réelle, comme à Calais, où on est sur un quotidien... on sait bien le problème de la jungle. On a plus de 40% pour Marine Le Pen dans une ville comme Calais, qui est une ville quand même de 70 000 habitants. Hein, c'est important de prendre en compte la taille des villes où on voit un Front National très fort, ou si on voit des choses qui sont de l'ordre de quelques milliers, voire de quelques centaines. Donc là, on se rend compte que c'est vrai. Alors, il y a une question sociale très réelle à Calais aussi, mais cette question sociale est extrêmement ancienne à Calais. Et en fait, le Front National n'a pas surgi dans les années 80 comme à certains endroits, il a vraiment surgi avec la question de l'immigration. Donc elle est à prendre en compte aussi, si vous voulez, d'une certaine façon, le discours du Rassemblement National a une forme de banalisation qui se retrouve dans cette spatialisation, avec, comme le disait très justement Hervé Lebras, bien sûr, une différence avec les grandes villes, les métropoles, même si, on va prendre Marseille et Nice... Moi, j'étais très surprise des résultats de Marseille et Nice. Et c'est absolument pas La République En Marche qui arrive en tête. Hein, absolument pas. C'est le Rassemblement National. Ce qui est un peu préoccupant quand même.
Ça veut dire que si on prend la carte de France, alors tout dépend des couleurs qu'on utilise, là, la carte de France que j'ai sous les yeux, La République En Marche est en marron clair et le Front National, le Rassemblement National, pardon, est en marron foncé. Cette carte de France, elle est marron foncé à quelques exceptions près. 72 départements ont le Rassemblement National en tête. C'est un effet arithmétique, puisque parfois cette différence n'est pas si importante que cela, Hervé Lebras, mais c'est quand même un fait majeur par rapport à d'autres élections.
Par rapport au premier tour de la présidentielle, c'est un peu plus, mais parce qu'au premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen était à 21,5 et Macron à 24. Donc là, il y a une petite différence. Mais déjà, au premier tour, quand on faisait au fond la même carte, elle avait à peu près le même aspect, avec effectivement uniquement, si je me souviens bien, trois exceptions qui étaient des exceptions Mélenchon. Et puis une exception dans la Sarthe qui était une exception Fillon. Mais disons que là, il n'y a pas un très gros changement. Je reviens sur le changement... sur ce que vient de dire Béatrice, c'est effectivement le Sud, le Front National du Sud n'est pas du tout le Front National du Nord. Il y a des très grosses différences.
Lesquelles?
Au Nord. Eh bien, dans le Sud, c'est vraiment massif. C'est-à-dire que même les grandes villes, à part Montpellier et Toulouse, disons le Sud-Est, à part Montpellier, votent beaucoup pour le Front National. Même une ville bourgeoise comme Aix doit être dans les 18-19%. En revanche, au Nord, c'est vraiment quelque chose qui oppose les grandes villes. Lille doit être à 13% et le reste du département est à près de pas loin de 40%.
Dans le Pas-de-Calais, il est
Béatrice,
dans le Pas-de-Calais, il est à 38. Bon, c'est énorme. Il est un peu moins dans le Nord parce qu'on a le poids de Lille, évidemment. Encore que Lille, c'est tout Lille Sud vote aussi Rassemblement National, et ça a été fait dans le Nord sur une conjonction de deux choses qui est à la fois une question liée à l'immigration, parce que le Front National surgit d'une certaine façon dans le Nord, à Roubaix. Et à Roubaix, c'est la conjonction à la fois d'une question sociale et d'une question d'une présence migration importante.
Oui, juste sur ce point-là, il y a quand même un paradoxe, si vous voulez, c'est que quand on regarde la proportion d'immigrés par département, le Pas-de-Calais est un des départements, c'est le troisième département qui a le moins d'immigrés. Donc il y a une certaine bizarrerie dans cette, autrement dit, le
donc
fait.
Donc la corrélation n'est pas si.
Absolument pas. Par département, actuellement, je ne l'ai pas fait pour aujourd'hui, mais pour le premier tour de la présidentielle de 2017, la corrélation entre la proportion d'immigrés originaires du Maghreb ou de Turquie et le vote du Front National est pratiquement nul.
Parce que c'est pas le bon niveau où il faut l'étudier.
Oui, bien sûr.
C'est tout, c'est simplement ça. À partir du moment où vous avez un Calais où on est à plus de 40% pour le Front National, et vous voyez surgir cette montée du Front National complètement liée à la présence, on va dire, des jungles qu'il y a pu y avoir, très directement, mais vraiment, c'est incontestable. Moi, quand j'ai travaillé dessus, et depuis les années 80, à l'échelle même parfois du bureau de vote, c'est vrai qu'à l'échelle de la région, ça ne collait pas. À l'échelle du département, ça ne collait pas. Et quand on descendait à une échelle beaucoup plus précise, là, ça collait très, très clairement. On ne peut pas nier que ce soit ça. Mais que la question sociale soit très, très forte, c'est incontestablement la même chose. Regardez où est élue Marine Le Pen. Où elle a gagné sa première ville, c'est Hénin-Beaumont, au cœur du bassin minier. Et là, sur la question migration au cœur du bassin minier, on a bien le couple pauvreté, chômage et rejet de l'immigration. Qu'elle soit juste ou pas, et que ce soit y compris des Français d'origine immigrée qui votent Front National tout autant.
Oui, enfin la corrélation, justement, si on descend à petite échelle, c'est plutôt une anticorrélation en France. C'est-à-dire que, grosso modo, globalement, c'est moins il y a un niveau fin, c'est moins il y a d'immigrés, plus on vote Front National. Par exemple, quand on regarde le vote du Front National par rapport à la distance au centre des grandes métropoles, il augmente de plus en plus. Il démarre à 5% à Paris, puis il monte à 10, 15%, et puis il est à 40% arrivé à 30 km.
Autre sujet, Béatrice Gibelin, l'influence des Gilets jaunes sur le vote, la manière dont les Gilets jaunes ont voté, qu'en pensez-vous ?
On s'étonne un peu qu'au fond, on n'ait pas un effet Gilets jaunes sur ces élections. Moi, j'aurais tendance à dire que, au fond, ils n'étaient quand même pas si nombreux que ça pour pouvoir peser lourdement sur des élections. Il faut rester un peu raisonnable, si vous voulez. Dire au maximum de leur mobilisation, ils ont été 500 000, je crois.
280 000, mais, selon
J'étais encore plus généreuse. Bon, 280 000. On est à quand même plus de 40 millions d'électeurs.
Mais on a eu des sondages qui nous disaient qu'il y avait 10, 15, 20%
Ces sondages ne voulaient rien dire. Ces sondages étaient en février, quand on a commencé, quand ils ont dit qu'ils allaient faire une liste, et puis on en a eu une, puis deux, puis trois, puis quatre. Bon,
elles n'ont pas fait recette,
non,
ces listes-là.
C'est le moins qu'on a. Non, mais certaines ne sont pas arrivées à terme, bien évidemment. Et je pense que il fallait pas prendre la sympathie qu'on pouvait avoir pour cette colère pour pouvoir être une adhésion et vouloir les suivre. Aucun programme politique très sérieux. Les gens sont retournés ce vers quoi ils avaient l'habitude de voter. Alors moi, ce qui m'a quand même surpris, si vous voulez,
c'est attendez, parce qu'il y a quand même eu une progression. Des voix d'un certain nombre de partis, une diminution d'autres d'ailleurs. Il y a donc le Rassemblement National dont on parlait, il a gagné un peu plus de 400 000 voix d'une élection européenne à l'autre. Hervé Le Bras.
Oui, mais en pourcentage, il a un tout petit peu perdu. Et sur les Gilets jaunes, c'est pas simplement, bon, je crois que l'échec de leur liste était prévisible. Ils n'ont pas encore
ils n'ont pas encore un
substrat idéologique suffisant. Mais ce qui est intéressant, c'est que les trois listes qui se réclamaient le plus du Front National ont accusé la plus importante chute par rapport à, au sondage d'abord, et ensuite par rapport à 2017, qui se réclamait notamment la France Insoumise, qui est passée Mélenchon était à 19,5 au premier tour, elle est à maintenant 6,3. Dupont-Aignan a aussi beaucoup baissé, et puis le héros des Gilets jaunes qui s'en vantait sur tous les plateaux de télévision, qui était Philippot, est à 0,6%, alors qu'à certains moments, on avait même cru qu'il ferait 2 ou 3%.
Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous?
Ça veut dire que le mouvement, les Gilets jaunes, fondamentalement, c'était un mouvement non politique, au sens traditionnel du terme, ou transpolitique.
Ce sont des Français qui étaient dans la rue pour réclamer un certain nombre de choses, parmi lesquelles il y avait une augmentation du pouvoir d'achat, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. On aurait pu imaginer que ces gens-là, ils aillent de la rue à l'isoloir quand même, Hervé Le Bras.
Parce qu'au départ, il y a une structure de... Il faut voir qu'il y a une histoire des Gilets jaunes. Donc au départ, il y a une structure qui est extrêmement liée à l'utilisation de la voiture. Et cette structure, elle est donc transpolitique. Aucun parti n'avait pris très au sérieux cette question de l'importance de la voiture dans le quotidien. Et puis ensuite, comme l'État n'a pas réagi, comme le gouvernement a, au fond, été un peu désemparé au début, toutes sortes de demandes se sont agrégées, mais ces demandes ne font pas une politique. Elles étaient souvent contradictoires les unes avec les autres. Par exemple, la demande de plus de services publics dans les zones en voie de désertification et en même temps de moins d'impôts, de hausse du pouvoir d'achat. Donc il n'y avait pas possibilité, je trouve, de se reconnaître dans une liste des Gilets jaunes.
Béatrice Gibelin.
Oui, moi je pense que le phénomène l'origine des Gilets jaunes a été médiatiquement très entretenue. Ce qui était nouveau, c'était ces manifestations tous les samedis, et ça a surpris. Et donc, il y a eu vraiment un écho très, 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 très fort. J'aime pas dire que les médias font les choses en disant, bah, ils avaient pas vu venir, et puis après ça, ils les ont mis en scène. Mais je pense qu'il y a eu quand même une certaine mise en scène des Gilets jaunes, et qu'ils se sont crus eux-mêmes, à ce moment-là, tout puissants. Avec une possibilité d'agir. On lâchera rien sans savoir ce qu'ils allaient lâcher ou pas. Et je pense que dans des élections comme les européennes, ben c'est tout. Les électeurs sont revenus à raison et ont voté pour les partis avec une offre qui faisait qu'ils pouvaient sans doute avoir des résultats corrects.
La surprise du scrutin, parmi les surprises du scrutin, il y avait Europe Écologie Les Verts dont le score avait été minoré dans les sondages avec finalement 13,5% des suffrages exprimés et là aussi une carte particulière de ce vote vert, Hervé Le Bras.
Oui, alors carte particulière, c'est le vote vert a depuis longtemps à peu près la même géographie. Il y a des nuances, mais disons que c'est une grande partie de l'Ouest, les Alpes au sens assez large du terme, disons l'Est de la vallée du Rhône à partir des Hautes-Alpes, et puis aussi un petit peu dans le Sud-Ouest et dans le Massif central. Et à ce moment-là, c'est aussi une carte qui est liée à nouveau à l'histoire de l'écologie, à l'histoire des luttes de l'écologie. Par exemple, les écologistes sont très forts autour de Notre-Dame-des-Landes. C'est pas un étonnement.
Pourquoi ?
Et puis aussi, ils sont forts à notamment en Bretagne, là où il y a eu la question des algues vertes. Donc il y a une sensibilité écologique qui se révèle au fond presque à chaque européenne. Tout le monde se souvient du très gros score qu'avait fait Cohn-Bendit. Le problème pour Jadot, ça va être de capitaliser, c'est-à-dire de faire en sorte que ce mouvement dure aux prochaines élections, ce qui n'a jamais été le cas en fait avec les écologistes ultérieurement.
Non, mais ce qui est notable, parce qu'on a beaucoup entendu dire que le vote écologiste c'était un vote urbain, par exemple, et moi je vois que dans une commune de la Drôme que je connais bien, eh bien les écologistes sur 306 votes exprimés ont eu 99 voix, ce qui veut dire le tiers des voix, et c'est la même chose dans de nombreuses villes de la Drôme, ce qui montre bien que ça n'est pas un vote urbain nécessairement.
Non, c'était d'abord plutôt même un vote suburbain. C'était la première couronne urbaine, mais c'est aussi un vote dans certaines régions. J'ai oublié de citer par exemple l'Alsace. L'écologie, le vote écologique est un vote très rural en Alsace.
C'était né en Alsace.
C'est un des points de naissance, tout à fait.
L'écologique est important.
Béatrice Gibelin.
Maintenant, il faut voir, puisque vous parlez de la Drôme, qui est quand même ce qu'on appelle la Drôme provençale, si c'est de celle-là qu'il s'agit, où un certain nombre de gens sont venus s'installer avec, si vous voulez, un niveau culturel, parce que moi je pense que c'est quand même très très lié. Le niveau de formation, de sensibilité à des évolutions sur des temps assez longs, qui peuvent à ce moment-là mobiliser profondément sensibilité au paysage, sensibilité aux conditions, j'allais dire, de l'air, les questions de pollution. Alors en ville, on va avoir des questions de pollution qui vont primer. Mais peut-être en milieu rural, ou moins dense, ça va être plus des questions d'équilibre ou réchauffement climatique ou agriculture. Quand même, si vous voulez, tout ce qui se dit, sans doute à juste titre, sur les dangers qu'on peut avoir, le glyphosate ou autre, tout ceci finit par imprégner et préoccupe. Donc je pense, pour ma part, je ne dis pas que Jadot va pouvoir, et je suis un peu de l'avis d'Hervé Le Bras, pouvoir capitaliser ça forcément au municipal, j'en ai de forts doutes, mais quand même que tous les partis politiques, ou une grande partie d'entre eux, doivent prendre en compte la question environnementale, parce que je pense que ça devient vraiment une préoccupation d'une partie importante de la population.
Mais là aussi, ce qui est significatif, c'est la volatilité électorale. On en a parlé lorsqu'il était question des sondages. Si je reprends toujours cette petite commune de la Drôme, je vois par exemple qu'il y a eu, au premier tour de la présidentielle, c'était Mélenchon qui était en tête avec 37% des voix, puis Macron l'a emporté avec 84% des voix à la seconde tour. tour. La République En Marche a eu 36% en législative. Et aujourd'hui, ce sont les Verts avec 33%. Ça change à chaque élection. C'est étonnant quand même, Hervé Le Braz.
Oui, alors ça change et ça ne change pas selon l'échelle que l'on prend. Mais effectivement, bon, les Verts sont un phénomène d'élection européenne jusqu'à maintenant. Ça peut bien sûr changer. Je crois, pour poursuivre ce que disait Béatrice, c'est que ça change aussi au niveau des agriculteurs eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a un conflit qui est typiquement le conflit Macron-Le Pen au niveau des agriculteurs. Il y a les productivistes, mais maintenant, les agriculteurs qui sont sensibles à la,
la bio... Les productivistes, ils sont où
Les productivistes, par exemple, vous savez, les agriculteurs, maintenant, c'est 1,4% de la population active. Mais les productivistes, c'est toute l'agriculture du nord de la Loire.
Autre changement significatif, la carte des Républicains. Alors là aussi, c'est quelque chose d'assez étonnant. Tout d'abord, comment expliquer la forte diminution, Béatrice Gibelin, de ce vote? Comment aboutit-on à 8,5% des voix pour le parti des Républicains?
Une partie des centristes républicains sont partis voter pour La République En Marche, très clairement. C'est-à-dire que le choix de Wauquiez de prendre une position réellement conservatrice, incontestablement, il y a des tas de gens de droite, démocrates, ouverts, centristes, qui ont trouvé qu'avec La République En Marche, au fond, c'était un bon programme. Si on appelle le président des riches, c'est bien parce qu'un certain nombre de gens n'y ont pas vu d'inconvénient à jouer La République En Marche.
Bon, c'est devenu un slogan électoral, c'est ça que vous voulez dire?
D'une certaine façon. Et puis de l'autre côté, sur les plus radicaux, ils sont partis sur le Rassemblement National. Donc, à la limite, il s'est
ils sont pas trop partis, puisqu'on a vu qu'il n'y avait pas... Alors, il y a une augmentation en valeur absolue du Front National, du Rassemblement National,
valeur relative. Je pense que c'est très intéressant, cette baisse des Républicains, parce que ça explique la stratégie qu'a adoptée Macron. C'est-à-dire, on s'est dit, mais pourquoi Macron fait de l'opposition frontale avec le Rassemblement National le thème de la campagne? Et je pense que son idée par derrière, c'est que après avoir au fond fait éclater la gauche, il s'agissait de faire éclater la droite, de constituer un vrai bastion du centre, parce qu'il sait que dans les autres pays, c'est l'alliance de la droite et de l'extrême droite qui l'a emporté.
Et justement, on va continuer à voir cette carte de France. Si on essaye cette fois-ci de faire la carte de France, de la France insoumise et du Parti socialiste, on va d'ailleurs écouter Jean-Luc Mélenchon.
Notre pays s'enfonce dans une crise profonde. Nul n'en aperçoit à cette heure l'issue positive. Notre responsabilité restera donc de tâcher de l'ouvrir, de continuer à tracer le chemin que nous avions d'abord inauguré si vaillamment. Dans ce contexte, notre résultat est très décevant. Il n'est pas à la hauteur de nos espérances, cela va de soi, et encore moins de nos efforts.
8h42 sur France Culture, on continue d'évoquer la carte de France, la nouvelle carte de France suite à l'élection européenne. Nous sommes en compagnie du démographe Hervé Le Braz et de la géographe Béatrice Gibelin. Alors j'ai les deux cartes de la France insoumise et du Parti socialiste. Ils obtiennent sensiblement les mêmes suffrages en pourcentage. Béatrice Gibelin, comment expliquer la forte diminution de la France insoumise et le fait finalement qu'elle ne soit forte que sur une partie de l'arc méditerranéen et également dans le nord de la France?
Je pense que quand même Mélenchon y est quand même pour beaucoup. C'est-à-dire que la personnalité de ce leader a compté énormément. D'abord, il a eu du mal à se positionner vis-à-vis des Gilets jaunes. Il a été un peu embêté, savoir de quel côté il fallait pencher. Bon, puis après ça, il est devenu un peu un supporter de la colère des Gilets jaunes. Il y a eu quand même cette attitude lors de la perquisition de son parti, ma personne est sacrée, qui a quand même fait un effet très très négatif. Ce qui est vraiment très préoccupant, moi je trouve, c'est que dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille, dont il a été l'élu député, la France insoumise ne capitalise absolument pas. Alors qu'il y a fait des meetings, alors qu'il y est allé. Ça veut dire qu'en tant même que leader, là, ils n'arrivent pas à garder cet électorat. On voit bien que les leaders gardent autour d'eux toujours un peu localement des voix. Là, ils ne l'ont plus. Ce qui est très préoccupant, ça veut dire que, au fond, le programme de la France insoumise n'est pas crédible, si vous voulez, pour une grande partie des gens qui y ont cru. C'est comme s'il y avait une forme de désillusion et qu'il a été lâché. Je pense que la situation pour la France insoumise est véritablement très grave. Quand Clémentine Autain dit il va falloir qu'on remette tout ça à plat et qu'on regarde les choses de près, c'est le moins qu'on en puisse dire.
Ce qui est intéressant dans la cartographie des résultats de la France insoumise, je dirais, c'est une cartographie du socialisme fossile. C'est-à-dire, c'est vraiment les très anciennes régions socialistes qui ont voté, par exemple, tout le Limousin, par exemple, le département où il a fait son meilleur score, c'est l'Ariège. C'était typiquement le département le plus à gauche sous la Troisième République. Donc, il y a
inférieur à 13%.
Ah, bah oui, mais en même temps, c'est là qu'il a fait son maximum.
C'est les vieux qui ont voté.
Peut-être en Ariège, mais quand on regarde les sondages d'opinion et les sorties des urnes, il a un électorat assez jeune. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est d'une certaine manière, cartographiquement, on voit apparaître une France qui est une France de gauche très ancienne, alors que la carte, au contraire, quand on regarde où le Parti Socialiste et Place Publique ont fait d'assez bons scores, c'est la carte de Hollande au premier tour de 2012.
Béatrice Gibelin, alors détaillez-nous cette carte de Place Publique. Avec là aussi, il faut dire qu'il y a des variations. Il y a globalement la partie ouest de la France qui est plus rouge, si on peut dire les choses ainsi,
rosé
et Parti Socialiste, plus rosé, voilà, c'est effectivement mieux, mais là aussi une France un peu palote.
Ah oui, elle est tout à fait palote. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est combien elle est pâle désormais dans le Nord-Pas-de-Calais. Comment on est vraiment dans une liquidation,
c'est quand même dans le Gard et en Provence,
qui étaient quand même des zones fortes. On ne retrouve effectivement du rosé un peu plus vif, la Bretagne, mais moi je maintiens que Le Drian joue un rôle important dans ce maintien là aussi. Et puis ce qu'on va avoir sur le littoral atlantique en allant vraiment vers le sud, on garde un peu effectivement toutes ces zones qui ont été très très ancrées socialistes autour de l'Aude, mais qui sont là aussi des zones anciennes. Et je pense que c'est un réseau, si vous voulez, de local, j'allais dire de clientélisme, c'est peut-être un peu formé, ou d'habitude de vote qui s'est maintenu. Mais on est vraiment sur des étiages extrêmement bas. Ce qui me surprit, pas sur les socialistes, mais c'est comment la République, la France insoumise, n'a pas pu embrayer sur une situation sociale difficile comme celle du Saint-Minier. Et logiquement, ce n'est pas...
Mais qu'est-ce que ça veut dire, justement, parce que c'est très important ce que vous dites.
Oui.
Il y a eu une situation sociale tendue avec les gilets jaunes, puis il y a une crise sociale que l'on connaît, et la France insoumise divise son score par 3.
Oui, mais parce que je pense que son discours n'est pas entendu. Son discours sur l'internationalisme, sur l'ouverture, il n'entend pas le discours de protection et il n'entend pas le discours de la nation.
Et le fait de dire que la France insoumise n'est plus à gauche, le fait de considérer que le clivage traditionnel ne vaut plus, est-ce que ça...
Et moi, je pense qu'au contraire, ce qui est intéressant...
Ça, c'était le discours de Jean-Luc Mélenchon. Ouais, hein.
Oui, mais c'est ce qui... Si on fait la somme des voix d'extrême droite, la somme des voix de gauche et la somme des voix du centre, on arrive à une France en trois groupes. Et cette France en trois groupes, on l'avait déjà exactement au régional. Simplement, au régional, c'était extrême droite, droite, gauche. Et maintenant, c'est extrême droite, centre, République en marche et gauche. Mais la gauche est non négligeable. Toutes les voix mises ensemble, c'est 35%.
Hervé Le Braz, vous restez avec nous, Se sentir mal dans une France qui va bien, aux éditions de l'Aube. Béatrice Gibelin, on retrouve votre excellente revue, la revue Hérodote et Le paradoxe français entre fierté nationale et hantise du déclin, séché Armand Collin.